Boum.
Les détricoteuses.
Elle m'évoque des sons soit imaginaires, soit qui existent pour de vrai.
Et c'est vrai, on est dans les détricoteuses.
Un espace ouvert et en évolution que je parcours.
Et nous allons écouter maintenant une création radiophonique.
C'est une parure que je porte, non pas pour me cacher, mais justement pour me révéler.
Et que c'est passible d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende.
Comme si elle parlait trop, alors que le temps moyen de discours d'une femme se situe entre 3 et 10 secondes.
Je me dis, mais c'est trop con de pas pouvoir le faire, juste parce que t'as des seins. Je m'en fous de mes seins, quoi.
Non pas que votre avis soit pas intéressant, non. Il raconte plein de choses, votre avis.
Les Détricoteuses.
Une émission menstruelle
et participative.
Tous les premiers et troisièmes vendredis du mois.
À 19h sur JetFM 91.2.
C'est un attentat radiophonique.
Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes les Nous sommes les détricoteuses et vous êtes les auditorices à la fois en direct sur la radio associative JetFM 91.2 et en chair et en os devant nous en public au café Les Impertinentes. Bonsoir. Moi c'est Julie, je suis accompagnée comme toujours de Jomar la discrétion qui n'a de discret que le nom et de Valentine à la technique de cette émission. Nous allons passer une heure ensemble pour détricoter un mot. Et pour cela, comme chaque mois, nous sommes en compagnie de trois invités qui ont relevé le défi aussi ambitieux que de faire rentrer une boule de bilboquet dans son socle, faire une création sonore de 7 minutes maximum sur un des mots contraintes que nous avons proposés. Nous sommes donc avec Daria, Didiel et Domitil. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Ça va.
Ah oui, ravi.
Tous les trois, c'est pas votre première participation aux détricoteuses. On pourrait même dire que vous êtes presque des habitués maintenant.
Je crois bien.
Eh bien, c'est super. On va voir ce que vous avez faire. Est-ce que vous avez deviné quel est le mot détricoté ce soir? Il y avait de forts indices visuels et auditifs. Le mot de ce soir est bilboquet. Bilboquet. Un mot qui fait sourire rien qu'à sa résonance, mais peut-être moins drôle qu'il n'y paraît. Ce mot nous avait été proposé par Théo, qui était dans le public lors de notre première émission ici en juin dernier. À l'époque, nous détricotions le mot turquoise. Vous pouvez aller la réécouter en podcast ainsi que toutes nos émissions. Un peu d'auto-promo ne fait pas de mal. Alors, bilboquet, nous en avons trois devant nous. Prenons le plus basique, celui-ci même. Vous pouvez constater qu'il est constitué de trois éléments. Une tige en bois bleu, sculptée, de 17 cm, avec un socle lui permettant de tenir debout, bien raide, avec une extrémité un peu plus fine et un petit trou au bout. Nous avons testé pour vous, il n'y a pas de liquide qui sort. Pour l'instant, nos recherches stagnent quant à la fonctionnalité de cet orifice. Ensuite, nous avons un objet toujours en bois bleu, sphérique, d'un diamètre de 10 cm avec un trou assez profond de 2 cm de diamètre. Nos études nous ont permis de constater que la boule rentre parfaitement dans l'extrémité de la tige. Bravo. Troisième élément, et non des moindres, une ficelle de 32 cm blanche qui relie la boule et la tige comme les liens du mariage. Et cette ficelle a son importance, c'est ce que nous allons voir. Car la question que nous sommes en droit de nous poser est la suivante. Est-ce que c'est la boule qui amène la tige à elle ou la tige qui amène la boule à elle? Qui mène le mouvement? Il nous a fallu, avec notre équipe de détricoteuses, à peu près 4 secondes pour comprendre que la main, la tige et la ficelle sont une équipe de choc bien rodée pour obliger la boule perforée à venir sans bouquet, sans cornet, comme le veut l'étymologie du mot, sur l'élément phallique. le mouvement dirigiste de la main aidé de la ficelle tel un complice indéfectible qui tout simplement retient la boule prisonnière, ainsi que la force de la gravité, de la situation en l'occurrence, vont obliger la cavité à venir s'empaler sur le membre en bois. Autant de fois que cette dernière et la main l'auront décidé. Alors je voudrais soulever une question qui n'a jamais été posée dans l'histoire de l'humanité depuis son invention au XVIe siècle, en Occident en tout cas. Le bilboquet ne serait-il pas en toute impunité l'objet symbolique de représentation de la culture du viol ou du moins du non-consentement? La question reste ouverte. Je vous laisse philosopher là-dessus après l'émission puisque nos invités ne sont pas allés sur ce terrain. Le bilboquet semble visiblement ouvrir des voies de réflexion inconsidérées. Mais avant d'ailleurs de passer à encore un peu de patience aux créations, avant tout ça, on vous propose quand même d'en savoir plus encore sur le bilboquet et même de tester vos connaissances avec un petit quiz. Et d'ailleurs, restez aux impertinentes après notre émission puisqu'il y aura un blind test dès 20h30.
Alors, Marjo, avec le bilboquet, le blind test, hein.
Rien à voir, mais c'est un jeu. Alors, Marjo, blind test.
Oui, alors, je vous ai préparé quelques questions autour du bilboquet. Vous allez devoir répondre par applaudissement. C'est parti. 34 281 est le nombre de bilboquets que collectionnait Gilles, collectionneur de jeux depuis 1950 dans la Creuse. Est-ce que 34 281 est le nombre de coups réussis par le recordman du monde de bilboquet qui vient du Jura? Ou est-ce que 34 281 est le nombre de coups ratés dans un trimestre pour la Fédération française de bilboquet? Alors, je vous repose la question. Qui pense par applaudissement que 34 281, c'est le nombre de bilboquets que collectionne Gilles, le collectionneur de jeux depuis 1900? Ah, bien sûr, vous pouvez jouer sur le plateau. Allez-y, par applaudissement, qui pense que 34 000... Ah, deux personnes! Seulement deux personnes. Est-ce que 34 281 est le nombre de coups réussis par le recordman du monde de bilboquet qui vient du Jura? On a beaucoup d'applaudissements. Ou le nombre de coups ratés dans un trimestre selon la Fédération française de bilboquet? Ah, trois personnes! Trois personnes auraient pu être dans le vrai. Mais non! C'est bien le nombre de coups réussis par le recordman du monde de bilboquet qui s'appelle Gilles. J'avais fait un petit truc tricky. Donc, il a été établi en 24 heures par une équipe. Ils étaient 7, donc ça est une histoire de famille. Et notamment de la famille de Gilles Delattre, qui est surnommé Toyman, ça ne s'invente pas. Et qui est à la base très connu pour faire toutes sortes de jeux, mais notamment le bilboquet. Et donc, ils ont réussi la performance il n'y a pas très si longtemps, en fait, parce que c'était en 2024. Donc, voilà. On continue. Combien de discothèques s'appelant le bilboquet se trouvent dans le 44? 0, 1, 2 ou 1,5? Alors, par applaudissement, qui pense que c'est 0? Deux personnes. Deux personnes timides, d'ailleurs. Elles ne sont pas sûres d'elles. Elles vont peut-être réapplaudir pour un autre chiffre. Une discothèque qui s'appelle le bilboquet. Ah, on a peut-être des connaisseureuses dans le public. Deux discothèques. Ou 1,5? Ah, on a quelques applaudissements. Eh bien... Vous avez raison de prendre des risques parce que c'est 1,5. Je vous explique pourquoi. Parce que la discothèque Le Bilboquet à Nantes est actuellement fermée. Ah. Et oui, c'est ça le piège. Elle a fermé en 2018, suite à des histoires un peu bressons, je vous épargne un peu les détails. Mais elle était à Gustave Rock, donc juste à côté des Impertiti, hein, pas très loin. Et l'autre bilboquet, ou le bilboc pour les intimes, pour les jeunes de la Gen Z, est une discothèque du pays Castelbriantais, donc proche de Châteaubriant, qui a ouvert en 83 et qui est une institution apparemment. Elle a commencé sous chapiteau et maintenant elle est... on me fait des pouces sur le plateau. Apparemment, c'est une vraie... C'est pour ça que tu criais tout à l'heure, toi ? Ah ouais, voilà, on a oui de la tête. C'est super, la musique est bonne là-bas apparemment et c'est très intergé, on m'a dit. Très intergé. Voilà, donc c'est précisément au Clos Jeannette à Herbray. Voilà, donc le Bilboquet...
Il va falloir accélérer un petit peu sur les
questions. J'accélère. Le Bilboquet dans le Kama Sutra est aussi appelé l'enclume, par applaudissement. Oui, c'est vrai. Le marteau-piqueur ou le javelot. Alors, le Bilboquet est une position du Kama Sutra. Mais est-ce que c'est aussi une position qui est appelée ? Elle a deux noms, en fait. L'enclume, le marteau-piqueur ou le javelot. Donc, alors, qui pense que le biboquet est l'enclume dans le Kama Sutra ? Vous n'avez pas compris ma question ?
Peut-être que personne pense que c'est l'enclume.
Le marteau-piqueur ou le javelot ? Bon, personne pense que c'est le javelot. Ça, en fait, c'est l'enclume, donc c'est très précis. C'est une position du missionnaire qui est plus confidentielle, mais qui gagne à être connue, selon un site très sourcé. Et donc, dans cette position, c'est un rapport hétérosexuel, forcément, parce que je vous dis, c'est un site très sourcé. La femme est couchée sur le dos, les lombaires soutenues par un coussin et la nuque par un oreiller. Et la femme place ses jambes sur le matelas. J'ai rien compris à ce que c'était.
En gros, vous avez les jambes en l'air et voilà.
Voilà, allez. C'est une partie de jambes en l'air. Alors Julie, elle en a marre de mon petit...
On prend du retard, Marjolaine.
Alors que c'était très intéressant. Oh,
c'était super. Bravo. En plus, j'avais une question subsidiaire. Mais,
Bah vas-y.
Alors, quel est le roi qui était fan de Bilboquet ? Des noms ? Louis XVI ?
Henri ?
Henri combien ? Henri III, on voit qu'il y en a qui ont fait des recherches sur le Bilboquet pour cette émission. Très bonne transition. Puisque, évidemment, vous avez dû faire des recherches pour plancher et nous proposer... ou des recherches, peu importe les recherches, mais... Voilà.
Bah, on va commencer par ton sujet, Domitil. Est-ce que tu veux le présenter, peut-être ?
J'ai absolument pas réfléchi à une présentation, mais je peux dire que tout est parti d'un... De moi, ce que j'ai entendu dans Bilboquet, j'ai tout de suite entendu Bilbon Saquet. Voilà.
Domitil, bienvenue dans ce podcast de tuto où je vais vous apprendre à défendre l'indéfendable, mais avec style. Salut, moi c'est Domitil. Je vais vous apprendre à faire passer toutes vos idées par la lorgnette du politiquement correct, mais avec style. Non. Salut, moi c'est Domistil et je vais vous apprendre à faire du bilboquet. voilà. Domistil, apprends tous les jours mais avec style. Voilà, comme tu l'as compris, aujourd'hui on s'intéresse à un jeu très ancien, le bilboquet. C'est très simple, il suffit d'essayer de faire entrer une boule percée d'un petit trou sur un piquet, les deux étant reliés par une corde.
Voilà. On va essayer de ne pas casser de trucs. Je vais me mettre ici. Allez, on y va. Let's go. Oui!
Faire entrer une idée, une boule, dans un trou tout petit, ça coince. Et une idée, ça déborde toujours un peu. Alors attention, ça devient méta, les gars. On va passer de l'objet au concept avec un jeu, le Johnny Depp. C'est parti.
Bon, allez, Johnny Depp. Johnny Ali Depp. Johnny Ali Berry Depp. Johnny Ali Richard Berry Depp. Johnny Ali Richard Franck Ribéry Depp.
Merci Aurel. Eh bien, ça marche pareil avec le bilboquet. Écoutez plutôt. Bilboquet. Bilbo Saquet. Bilbo Saquet.
Bilbon Saquet.
Mon cher Gandalf.
C'est bon de vous voir.
Détour narratif. Mais où tout cela nous mène-t-il ? Peut-être dans un trou. Ah. mais pas un trou déplaisant, sale et humide, rempli de bouts de verre et d'une atmosphère suintante. Non plus qu'un trou sec, sablonneux, sans rien pour s'asseoir ni sur quoi manger. Non, un trou de hobbit, ce qui implique le confort. C'est ainsi que débute une œuvre majeure pour la littérature jeunesse et fantasy, Bilbo le Hobbit de J.R.R. Tolkien. Un Bilbo saké que nous surnommerons Bilboquet. Qu'est-ce que je suis drôle. Bilboquet, donc, est un hobbit, pieds poilus, petite taille, bonne tête. Un jour, un magicien du nom de Gandalf se présente à sa porte et c'est le début d'une aventure avec 12 nains, des elfes, des orques, des trolls, un anneau et même un dragon. Mais aucune femme. Merde. Jouer au bilboquet, c'est essayer de faire rentrer mon admiration pour Tolkien dans mes valeurs woke. Oui, parce que je suis fan de Tolkien depuis l'enfance, by the way. Et alors, c'est quoi être woke? C'est être éveillée, consciente des inégalités sociales qui pèsent sur les femmes, les personnes lesbiennes, gays, bi et trans, les personnes d'origine étrangère, etc. C'est reconnaître que l'on peut être traité différemment selon son milieu social, sa couleur de peau, sa religion, son handicap, son sexe ou son genre. Donc, les personnages qu'il y a dans l'œuvre de Tolkien sont-ils traités différemment selon leur genre? Eh bien non, Jamie. Partant du principe qu'il y a zéro personnage féminin dans Bilbo le Hobbit, la question est vite résolue. C'est forcément dépréciateur pour le genre féminin.
Super jeu, hein. Vraiment, j'adore. C'est pas du tout un jeu où on se fait mal.
C'est là où l'on se fait des nœuds à la corde du bilboquet. Mon move naturel, ma première figure, serait de défendre mon auteur préf. D'ailleurs, quand je fais des recherches, je tombe sur une foule d'admirateurs comme moi qui essaient de lui trouver des excuses. Oui, mais dans Le Seigneur des Anneaux, qui est la suite de Bilbo le Hobbit, les femmes présentes sont certes peu nombreuses, mais elles représentent des valeurs fortes comme la douceur, le courage, la sagesse. D'ailleurs, Galadriel, une reine elfe magicienne, est la seule à résister à la tentation de l'anneau. Et puis de toute façon, Tolkien a été élevé dans une société particulièrement patriarcale et sexiste, hein, resituons le contexte. Né en 1882, il était à l'époque dans des idéaux de l'Angleterre victorienne, où la femme n'avait aucun droit. Et puis Tolkien est devenu un universitaire, un enseignant à Oxford, dans un collège pour garçons, membre d'un cercle masculin très fermé. Il y a donc que peu de femmes dans son entourage. De grâce, évitons l'anachronisme. Merci. Oui, c'est vrai, c'est important de resituer le contexte. Mais plus j'avance dans ma réflexion et plus j'ai l'impression qu'à mon tour, j'essaie de défendre l'indéfendable. C'est à ce moment précis que je deviens le sujet de mon propre tuto.
Ouh, méta !
Oui, certes, les rôles féminins sont particulièrement forts. Mais a-t-on envie, en tant que femme, d'être enfermée dans des stéréotypes de douceur, de sagesse ou de courage ? Comme Galadriel, Arwen ou Eowyn. Et certes, Tolkien a vécu à une époque où l'émancipation des femmes n'était pas tout à fait à la mode, encore que, il y avait les suffragettes, mais il pouvait avoir des valeurs progressistes, non ? Alors que faire quand on se rend compte qu'une œuvre qu'on admire ne correspond pas à nos valeurs ? On peut essayer de lire l'œuvre comme un miroir de son époque, un document sur les mentalités passées. Et ça, ça marche plutôt bien, parce que Tolkien, il est considéré comme le père de la fantasy. Or, la fantasy s'oppose à la science-fiction en cela qu'elle propose un monde imaginaire où la féerie, la magie, la mythologie se déploient depuis un passé lointain. Où il pourrait y avoir autant de femmes que d'hommes avec des rôles variés et représentatifs d'une diversité. Bon, passons. Dernière option. Admirer la nature du travail entrepris par Tolkien, soit dit en passant, avoir créé un monde tout entier, plusieurs langues, une cosmogonie, et condamner sa vision limitée des femmes. Voilà, sortir d'un jugement manichéen, établir un dialogue critique et arrêter de faire semblant que tout rentre parfaitement sur le piquet. Il est pas mal ce jeu finalement. Beaucoup moins simple que ce que je pensais, hein. Voilà. Bon.
j'ai pas réussi à faire rentrer Tolkien dans mes valeurs. Mais j'ai réussi à faire tomber le bilboquet derrière le canapé. Et ça, c'est déjà une forme de déconstruction. Voilà mes fololos, cet épisode a été sponsorisé par le déni intellectuel, la nostalgie et une ficelle trop courte pour nos valeurs. C'était les tutos de Domistyle, comment rater, mais avec style.
Domistyle, apprends tous les jours mais avec style.
Vous êtes toujours dans les détricoteuses, on est en direct du bar Les Impertinentes à Nantes, on est diffusé sur Jet FM en direct et peut-être que vous nous réécoutez sur Radio Méga car nous nous exportons telle une multinationale. Donc nous allons faire un petit quiz, non je déconne, Domitil, merci beaucoup pour ton sujet, beaucoup de choses, bon déjà tu t'es éclatée dans la réal, non? Comment ça t'est venu, déjà le parallèle? Et puis, toutes ces petites digressions là autour du, du pilboquet. Enfin, ouais, je t'imaginais seule, en fait, dans ton salon en train de le faire.
Oui, ceci est un trucage. Je n'avais pas de pilboquet. Mais j'ai trouvé des objets en bois qui pouvaient plus ou moins s'emboîter, mais surtout tomber. En fait, je voulais dès le début parler de la non-place des femmes dans l'œuvre de Tolkien, dont je suis fan, et je me disais, mais il y a quand même un problème, parlons-en. Mais en cherchant un peu, je me suis rendu compte que tout le monde, quand je faisais des recherches, défendait Tolkien, et qu'à aucun moment on se disait, bon, mais il y a quand même définitivement quelque chose à dire là-dessus, autre que oui, mais bon. Et donc, là, je suis vraiment embêtée à trouver une forme un peu plus légère pour faire mon exposé. Et donc, j'ai commencé à regarder des tutos sur les bilboquets. Et je me suis dit, pourquoi pas faire mon propre tuto de bilboquets avec ma marque, Domistyle, super marque.
Et du coup, l'œuvre dont tu parles, donc Bilbo le Hobbit, t'as relu avec tes lunettes woke, ou c'est juste que comme tu connais bien l'univers de Tolkien, t'as voulu nous en parler, mais est-ce que c'est la même chose si on relit au moment où on est déconstruite une œuvre comme celle-ci?
C'est compliqué, moi j'ai lu Tolkien pour la première fois, j'étais enfant, enfin, c'était mon père qui m'a lu Bilbo le Hobbit, j'avais 7 ans, je pense qu'à cet âge-là j'avais absolument pas de lunettes woke. Mais après, j'ai été dans une grande période adolescente de fan absolu avec que des posters partout sur les murs. Et puis maintenant, j'en reviens. Enfin, je suis toujours fan, j'aime toujours lire son œuvre. Mais ça a ouvert tout un champ de réflexion qui ne s'applique pas que à Tolkien, en fait. C'est comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de l'admiration qu'on a pour des artistes comme Tolkien ou comme d'autres quand on sait que finalement, il n'était pas du tout inclusif, mais voilà, en même temps, on a envie de le défendre. Oui, mais c'est une autre époque. À ce moment-là, personne n'était inclusif. Bon, voilà.
Et est-ce que tu arrives à déconstruire un peu ta bibliothèque, notamment dans la fantasy? Est-ce que des autrices ou même des auteurs qui ont une autre vision?
Ah oui, bah oui, y a Robin Hobb qui est une grande auteure qui a écrit l'Assassin Royal, qui est absolument génial, que j'aime beaucoup. Et puis plus récente, mais plus dans la catégorie science-fiction, Baker. Becky Chambers, qui est une super autrice de science-fiction. Et pour le coup, c'est très déconstruit, c'est très inclusif, c'est très queer. On aime beaucoup Becky Chambers.
Bon, top. Et ton rapport à l'écriture, toi, puisque tu parles de détour narratif dans ta digression, tu fais beaucoup de radio. Est-ce que tu écris aussi ou pas du tout?
Non, enfin, j'ai écrit beaucoup quand j'étais gamine. C'était mon grand rêve d'être écrivaine. Mais non, plutôt pour la radio. Effectivement, j'écris pour mon émission sur Prune, la cacophonie.
Yes.
On s'amuse beaucoup à parler de caca.
Elle est diffusée quand?
Elle est diffusée de façon trimestrielle et la prochaine, c'est en mars sur Prune, le 18 mars de mémoire à 18h. Peut-être que c'est pas le 18 mars, mais c'est sûr que c'est à 18h.
Yes. Et peut-être que tu peux nous parler de ton podcast, même si tu nous en as parlé un petit peu dans l'émission Dilettante.
Oui, j'ai fait un podcast qui est sorti au mois de septembre qui s'appelle 6m50. 6m50, c'est la longueur des plus petits bateaux de course au large qui soit. Et j'ai un ami qui a traversé l'Atlantique sur ce tout petit bateau qu'on appelle un mini dans le cadre de la mini Transat, qui est une course au large qui a lieu tous les 2 ans. Et donc, j'ai placé un micro dans son bateau pendant la traversée de l'Atlantique et j'ai fait un récit en 6,5 épisodes. Qu'on peut retrouver sur SoundCloud, Spotify, Deezer, etc.
Bon, rien à voir avec le Bill Bokeh, mais au moins, on comprend pourquoi tu t'es autant éclatée dans ta réal, parce qu'en fait, tu kiffes la radio.
Je kiffe la radio, c'est vrai.
Merci beaucoup, Domitil.
Bravo.
Bravo à toi.
Applaudissements. Et on enchaîne avec un deuxième sujet. Valentine, c'est toi qui t'es...
Est-ce que, Didiel, tu souhaites l'introduire ?
Non.
Merci beaucoup pour cette introduction.
Ça me convient comme
c'est
réponse.
C'est le minimum. Hein.
Alors, on écoute ton sujet.
Alors, le principe du bokeh, c'est très simple. Et voilà. Alors, le principe du bokeh, c'est très simple. Et voilà. Alors, le principe du bokeh, c'est très simple. Et voilà.
On peut y voir un personnage qui vient faire Bill Bokeh avec de la performance, des figures comme on peut voir à la télé. Et il va avoir un petit souci, la ficelle va s'allonger démesurément. Cette situation. Donc là, on va voir très sérieux et très esthétique au départ parce qu'il doit gérer cette situation improbable et accidentelle qui va se fissurer et qui va devenir...
Nous avons réussi à retrouver caché le témoignage puissant d'un être singulier. Une sorte de troubadour qui n'aurait su marcher, tant la terre était ronde et les angles acérés.
Le temps passe si lentement et je me sens si fatigué.
Bill Bokeh, il s'appelait. Bien sûr, les médisances fleurissaient tant et tant, il aurait pu en faire des bouquets. D'autant que oui, chaque jour, Bill avait le hoquet. Le beau hoquet sanglant d'une très belle peur nouvelle, celle d'aimer, d'être aimé, de chérir dans sa chair comme un fluide glacial l'élan insupportable d'un amour sans issue.
Le silence des morts est violent quand il m'arrache à mes pensées.
Bill avait le bokeh. Le bokeh est au beau ce que l'eau est au lait, un fluide existentiel qui ne dit pas son nom. Juste l'inverse de oui, ouïr, entendre, écouter.
Je rêve de ces ténèbres froides et électriques et majestueuses, où les dandys se tiennent roides, loin de leurs pulsions périlleuses.
Oui, le bokeh est beau et sa bile le sentait. Et le sang encore tant en ce jour de vieillir, en cette nuit de veiller. Pendant que Bill toujours, oui vraiment, y elle le sait, l'a tellement raconté, et redit, qu'il était elle et lui, qu'elle était lui ou elle, commence à se vêtir d'un autre existentiel, au-delà des nuages. C'était un peu comme si, il épousait le rythme d'un doué d'un bilboquet.
Je rêve tellement d'avoir été que je vais finir par tomber.
En ciel, évidemment, et même de nuages. Parfois c'est l'arc-en-ciel et parfois c'est l'orage. Le tremblement de terre, terre ses doutes et ses pleurs, variations masculines et rimes féminines.
Julie, Juliette ou bien Justine, toutes mes rimes féminines. Camille, Claudel, Mamselle Chanel. Ou l'enragée Louise Michel.
Oui donc, rime féminine. Et chant de tout Adelphes en cheminement de soi, vraiment pleinement en soi. Et revenons au thème, puisqu'il en est une autre. Si Bill avait bugué, si Bill était bloqué, là Bill se demandait. Là, si la boule de Bill avait tourné sa bosse, dans le genre de rouler rock'n'roll enfiévré, en fièvre et embêté, il l'était tout bonnement. Bill et lui en mouvement d'être lui ou elle. Finalement, Bill a roulé sa bille. Bill a roulé sa bille. Et on a fait un jeu.
Je rêve tellement d'avoir été que je vais finir par tomber.
Ah oui, je dois l'aveu que ce Bill, c'était moi. Un je suis moi, laisse-moi, je vais bien comme je roule, comme je veux, comme je file, comme je fille, quand je pense, mes plaies là dans le doute, et puis là dans le genre. Des plaies de doute, vraiment, j'en avais eu des tonnes, des bonnes et des mauvaises. Mauvaises, m'avait dit là, celui qui guérissait, celui qui choisissait. Docteur, me disait-il, nous savons, t'inquiète, de quel genre tu te chauffes. Alors opération et brancard et néon, dans les yeux et partout, et abus de pouvoir de médecins qui, sachant, s'achetaient bonne conscience à bas prix même soldé, et puis pleurs. Un Bill bloqué qui tombe vraiment. Est-ce que ça a fini par tomber sur l'espérance? Je ne sais.
Je rêve tellement d'avoir été que je vais finir par tomber.
Merci beaucoup Didiel pour cette belle création sonore et le travail de la forme. Ce soir, on a des créations qui se proposent de travailler aussi la forme, et c'est très chouette. Alors, je ne sais pas si le public qui l'écoute probablement pour la première fois est sûr d'avoir complètement tout compris, et très certainement que ça n'est pas grave.
Ah non.
Mais
je vais arrêter de dire non, ça va devenir payé.
Ça m'emmène à ma première question. Je voulais savoir si tu avais envie d'expliciter ou c'est justement pour ça que tu choisissais la poésie, c'était pour la liberté d'interprétation, pour le mystère que...
Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, moi, j'écris de la poésie depuis le CM2 et j'ai eu la chance de croiser en 6e un prof de français hallucinant qui m'a appris l'écriture automatique. Et donc, j'écris au fil de la plume et il se trouve que par ailleurs, je suis aussi artiste clown et donc que j'aime jouer et jongler et bilboqueter avec les mots.
Ouais. Et le bilboquet t'a quand même amené sur la thématique du genre.
Bah parce que j'ai plus que ça comme thématique.
T'as plus que ça comme thématique. Donc peut-être que tu ne peux nous parler de ta pratique. Parce que, alors, la thématique du genre, c'est quand même quelque chose qui a l'air d'avoir... Enfin, moi, je suis tombée sur une conférence TEDx de toi.
C'est ça.
Sur les masculinités.
Sur la violence masculine.
La violence masculine. Donc c'est quand même quelque chose qui... traverse, en tout cas, un sujet qui t'intéresse. Est-ce que ça traverse ta pratique aussi de clown, de poète ?
Oui, il se trouve que, notamment, paradoxalement, quand j'ai préparé le TEDx, je me suis aperçu que mon solo, un de mes solos de clown, mais celui qui est le plus important dans ma vie de clown, qui avait été écrit 10 ans avant mon TEDx, parlait déjà de ça, puisque je cite mon clown, à un moment donné, mon clown dit « Dans la vie, c'est pas facile d'avoir le choix dans son intérieur », alors que lui, il parle de l'installation de chez lui avec des cartons. Donc oui, enfin, ça participe de mon écriture, ça participe de mes réflexions, ça a participé de mon travail de TEDx qui donc s'appelle « C'est à nous les hommes de changer ». Il se trouve que j'ai changé de prénom, par exemple. Je suis né Didier et je m'appelle maintenant Didiel, que j'ai ajouté le nom de ma maman à mon nom de famille, que je m'appelais Charuel et que je m'appelle Pacari Charuel. Et j'ai commencé par le nom de ma maman parce que j'étais d'abord dans le ventre de ma maman avant que mon papa ne croise quelque chose qui devait être ma tête, parce que je crois que j'ai... Non, césarienne, donc tout en fait. Il a tout vu d'un coup.
Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ta pratique de clown ?
Ben, c'est un peu particulier. Je sors d'une résidence de clown dans un lieu magique au fin fond du Vercors. Et j'accompagne depuis plusieurs années une clowneuse qui a été formée avec moi, qu'on a un parcours assez similaire. Globalement, nous, on travaille un clown qui s'appelle le clown de l'instant présent, c'est-à-dire on n'est pas dans le clown de la déconnade, on n'est pas dans le clown de la dérision au sens des fois politique du terme. Il y a des clowns qui travaillent ça très bien. On est plutôt dans un clown de l'émotionnel et de ce qui se passe là. Et il se trouve que, par exemple... Karine, son clown, son spectacle, c'est un spectacle sur le handicap invisible, dont on pourrait penser que ça ne se prête pas à l'écriture clownesque, alors qu'en fait, ça se prête totalement à l'écriture clownesque. Donc être clown, c'est pour moi, en tout cas, tenter d'être dans l'instant présent et de toutes les émotions qui se présentent.
J'ai une amie qui fait du clown et donc j'ai un peu découvert comment est-ce qu'on trouvait son clown. Je trouve ça assez fascinant. Peut-être que tu peux nous dire 2 mots là-dessus.
Alors c'est facile, vous creusez très très longtemps. Je ne sais pas comment on trouve son clown. La bonne nouvelle que j'ai, c'est que vous avez tous un clown. Après, c'est à vous. Enfin, nous avons été enfants. Nous sommes encore un peu idiots et pas bêtes. Et donc, globalement, trouver son clown, c'est juste laisser apparaître une part de soi qu'on a cachée, qu'on n'a pas envie de faire apparaître, qu'on a du mal à faire apparaître. Moi, j'ai un clown qui m'a fait découvrir des choses que je ne voulais pas du tout voir, notamment... Moi, je suis en colère depuis que je suis né. Mon TEDx en parle. Mon clown m'a dit « Débrouille-toi avec la colère ». Et c'est plutôt c'est une émotion comme les autres, quoi. Donc, trouver son clown, c'est s'autoriser à être une autre part de soi, une autre couleur de soi. Et surtout, moi, très concrètement, comme je le dis souvent, attention, je n'ai jamais dit ça à la radio, si je n'étais pas clown, je pense que je serais mort ou fou.
Est-ce que tu as envie de nous parler de ton choix musical dans ta création ?
Bien sûr. Alors, c'est marrant parce que c'est une chanson que je trouve que je... Alors non, Hubert Félix Thiéphaine, c'est quelqu'un que je suis depuis son premier album. Donc oui, je suis un vieux. Et donc, il se trouve qu'il a une écriture qui a beaucoup évolué, qui a beaucoup été... Il a beaucoup travaillé son écriture. Et là, on est à une phase où... Il a réussi à faire le lien entre cette écriture totalement déjantée qu'il avait au tout début et une écriture plus sensée. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui est passé très proche de la folie, enfin, vraiment au sens propre du terme. Hein. Il le raconte déjà. Et là, en fait, on a à la fois Les Dingues et Les Paumés, qui sont une vieille chanson, et la deuxième, qui est une chanson plus récente. Et moi, plus je l'écoute, plus j'entends des choses. Et en fait... C'est vraiment un chanteur qui m'accompagne depuis très très longtemps. Et quand j'ai travaillé cette création, soudainement, mais vraiment soudainement, avant de vous l'envoyer, je me suis dit, mais juste va voir que c'est pas un deuxième Bertrand Cantat. Parce que Bertrand Cantat a été un très très beau poète, mais on sait l'homme que c'est. Et moi, je ne sépare pas, voilà. Donc je n'écoute plus Bertrand Cantat. Par contre, je continuais à écouter Hubert Félix Thiéphaine et je m'étais aperçu que je l'écoutais sans m'être posé la question. Et grâce aux détricoteuses, grâce à votre appel, grâce à cette création, je me suis posé la question. Je n'ai rien trouvé quand j'ai cherché. Par contre, je n'ai pas été voir les 3 500 000 documents d'Epstein. Et donc, il y a encore un doute.
Ok. Merci beaucoup, Didiel. Je vous invite à réécouter, si vous voulez, parce qu'à la deuxième écoute, à la troisième, on entend des choses différentes dans ta création. Donc,
et merci à vous pour l'invitation, Lélie.
C'est un plaisir.
C'est à chaque fois un plaisir.
On va suivre avec une petite pause musicale.
Et on revient juste après.
Dolly Parton, qui a choisi Dolly Parton? Alors, Daria, dis-nous tout.
Si tu as quelque chose à dire.
Ah bah, je sais pas trop. Dolly Parton, 9 to 5, ça cause du travail. Voilà, ça cause des femmes au travail et d'un ras-le-bol global. Voilà, c'est en anglais, donc essayez de chercher sur vos téléphones les traductions et tout ça, c'est assez chouette, quoi. Enfin, voilà. Et ça rock.
Petit teaser pour la création qui va suivre, juste après. And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind.
You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. On the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in, and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5.
Et vous êtes toujours dans les détricoteuses en direct des impertinentes et sur Jet FM 91.2. Un public de folie pour détricoter le Bill Bokeh. Et on arrive déjà au dernier sujet, c'est toi Daria qui l'a fait. Tu veux nous dire un petit mot avant qu'on l'écoute?
Oui, je voulais juste dire que j'ai choisi le sujet que vous allez entendre parce qu'il m'a beaucoup plus inspirée. Mais j'aurais pu effectivement aller faire un petit sujet au Bill Bokeh qui est à Herbray et donc qui
la
est
discothèque.
À côté de chez moi.
je suis déjà voisine,
voilà, et j'ai déjà été une fois. Et effectivement, avec d'ailleurs pour l'anniversaire de mon ami qui est là ce soir, qui s'en souvient très bien. Voilà.
Incroyable.
Incroyable. Et donc, c'est une institution. Effectivement, la playlist n'a pas changé
depuis 30 ans. 83. Eh bien, on va sur un tout autre sujet qu'on va découvrir en l'écoutant. Et on revient juste après.
When there's a groove like that, everybody feels good.
Atelier Bill Bokeh, améliorez votre agilité au travail. Avec l'atelier Bill Bokeh, la réussite à portée de fil. Un jeu ludique et interactif. Technique, mental, physique tonique. C'est la triple préparation au service de vos équipes. Aller vite et perdre du temps, ou prendre le temps d'aller vite? Avec l'atelier Bill Bokeh, vous saurez vous poser les bonnes questions. Quels sont vos objectifs? Trouvez le flow qui est en vous.
Eh bien, bonjour mesdames, je serai votre coach experte à l'atelier, donc Bill Bocquet, améliorer l'agilité au travail. Donc, l'agilité en un mot, là, comme ça, hop, 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 ça fuse, allez, un mot, oui, tout à fait, la rapidité, très bien. Donc là, effectivement, des mots importants, de la précision aussi, donc l'agilité au travail, voilà, l'alignement tête, cœur, corps. Pour cela, nous avons une méthode hein, que nous avons développée avec mon collaborateur Jean-Marc et que nous avons brevetée, évidemment, d'où le prix de cette formation. Alors, donc, la méthode, c'est 5 gestes gagnants pour la réussite, votre réussite. Et donc, 5 gestes gagnants, premier geste, la respiration. Voilà. Vous voyez bien le diapo, là? Oui, voilà, derrière moi. Donc, premier geste, la respiration. On inspire. On expire. Voilà. Voilà, vous pouvez le pratiquer, pratiquez-le. Voilà, on inspire et on expire. Hein. On respire. Voilà. On reste calme, on retrouve... Pas trop vite, Sylvie. Voilà, vous allez avoir la tête qui tourne après. Alors, donc, effectivement, là, le calme. On retrouve le calme. Ensuite, donc, deuxième geste gagnant, l'ancrage au sol. On s'ancre dans le sol, voilà. On est maître de ses émotions. On ne fait pas les hystériques, hein. On s'ancre dans le sol. Voilà. On est maître de ses émotions. Troisième geste gagnant, le langage intérieur positif. Positif, donc comme je vais citer donc Jean-Marc, hein, c'est, vous le voyez sur le diapo là, citation de Jean-Marc. Le résultat, c'est la conséquence du plaisir dans le chemin. Voilà, il sait très très bien, vu comment il nous plotte au passage pendant les réunions. Alors, le langage intérieur positif, donc on s'encourage soi-même, hein, même si les autres ne le font pas. Eh oui, on s'encourage soi-même, on se dit forte, autonome, nous sommes motivés. Même si votre chef n'écoute jamais vos conseils en réunion, vous traite comme une esclave et vous paie au lance-pierre. Et à partir de là, donc quatrième geste gagnant, prolongez la main. Voilà, on prolonge la main. Donc prenez, oui, tout à fait, hein, prenez le bilboquet là, chacune, voilà. Alors vous avez le bilboquet dans les mains, voilà, le prolongement de la main, vous tenez bien le bâton, hein, le prolongement de la main, donc le projet, on se projette, on a une cible, alors, vous pouvez prendre n'importe quelle cible, vous avez une cible dans la tête, voilà, oui, tout à fait, bah, votre chef, Françoise, tout à fait. Alors vous avez votre cible, voilà, vous tenez bien fermement, comme ça, et puis le prolongement de la main, le cinquième geste gagnant, vous immobilisez la ficelle. On immobilise la ficelle. On se tient prête. On se tient prête, on immobilise la ficelle. Et là, on lance la boule qu'on essaie de mettre dans le bâton. Mais oui, c'est dur. Effectivement, l'intérêt de l'atelier, c'est la frustration face à l'échec, évidemment. Mais oui, c'est ça l'intérêt de la formation aujourd'hui. Donc, il est fort possible que vous ne réussissiez absolument pas à mettre ce bâton dans le trou de la boule. Mais... l'important, c'est de gérer votre frustration. Voilà. Donc, on reprend. Donc, respiration. On respire. On reste calme, serein, ancrage dans le sol, là, comme ça. Hop, là, voilà, on est concentré. On est objectif, on est maître de ses émotions. Et puis ensuite, bah, langage positif. Ouh, je vais te la mettre, celle-là, dans la tronche. Ça, c'est très positif, voilà. Et puis ensuite, bah, voilà, on tient, prolonge la main, là, comme ça, on se prépare à lui mettre une... Oh là là. Oui, on a le bâton dans la main, on se prépare très très bien et puis ensuite on immobilise la ficelle, c'est-à-dire que là rien ne peut nous arrêter et on balance cette boule, on la balance, tiens Jean-Marc, tiens avec tes citations à la con, tiens avec ton PowerPoint, tiens avec quoi, oui, il y a une femme sur 4 en temps partiel, c'est pas pour aller faire de la voile, hein, c'est pour gérer les mioches.
Et le harcèlement sexuel, hein, Jean-Marc? T'imagines le nombre de personnes qui n'ont pas pu parler s'il y a déjà une femme sur cinq qui dit avoir subi du harcèlement? Hein? 70% des personnes trans ont été discriminées sur leur lieu de travail. Il y a 5 fois plus d'ouvriers qui sont victimes d'accidents du travail. Ils perdent 10 ans de vie en moins par rapport au cadre. Hein, Jean-Marc? Hein? Bon. Bon, vous pouvez garder les bilboquets, hein? L'entraînement est salutaire. Donc, bah, je vais vous donner la fiche d'auto-évaluation, hein, pour évaluer votre taux de bien-être et d'estime de soi à la fin de cette journée de formation. Et puis une fiche d'évaluation de la formation, hein, avec la liste de toutes les compétences qui sont transférables à tous les domaines de votre vie. Merci. Bonne journée.
Donc, nous sommes toujours dans l'émission des détricoteuses sur bilboquet. Et alors là, tu as trouvé une autre symbolique du bilboquet, donc un objet pour permettre d'être plus performant et de mieux gérer ses émotions au travail. J'y aurais pas pensé, mais c'est vrai que là, vu comme ça, c'est évident. Ça marche à fond. Comment ça s'est venu, cette idée?
Eh bien, je pense que déjà, moi-même, je suis très habitée par le sujet, on va dire. Ça me concerne bien. Ça fait quand même pas mal d'années que je m'interroge sur le rapport au travail et du coup me nourris de beaucoup de choses pour pouvoir nourrir ma réflexion et mes pratiques. Et puis quand j'ai fait mes petites recherches sur le bilboquet, j'ai tapé compétences. Voilà, il faut savoir qu'il existe vraiment un atelier bilboquet créé par une société de consulting qui propose des stages de team building. Voilà. Et là, ça m'a fait beaucoup rire et beaucoup mis en colère.
Oui. Pour gérer l'adresse, ce genre de choses, j'imagine, c'est ça ce qui...
Tout ce que j'ai pu raconter dans le stage est vrai.
Évidemment. Évidemment. En tout cas, tu t'es carrément bien amusé, toi aussi, hein, pour super, avec la forme, t'as joué la comédie et tout. T'as repris le vocabulaire spécifique qu'on retrouve dans le domaine du coaching, les intonations, etc., pour les détourner, les ironiser. Est-ce que tu voulais dénoncer quelque chose, peut-être?
Alors, oui. oui, ça m'a vraiment fait du bien de le mettre en pratique, tout ce que j'avais un peu théorisé dans ma tête. C'était vraiment jouissif, quoi. Voilà. Je m'attendais pas à péter les plombs quand j'ai commencé à faire je me suis imaginée formatrice et c'était pas ça normalement l'issue. Et je vous avoue, quand j'ai fait l'enregistrement, j'ai pété un câble. Et du coup, je me suis dit, ah, c'est trop bien. En fait, je vais garder ça.
Je pouvais pas savoir que Jean-Marc serait à la formation en même temps.
Eh oui. Mais du coup, effectivement, moi, ça fait un petit moment que j'ai cette dent contre ce qui peut s'appeler la surhumanisation managériale, du coup, et qui est une entourloupe extraordinaire pour nos conditions de travail, quoi.
Tu peux préciser?
En fait, c'est des choses que j'ai pu comprendre, notamment si vous avez déjà lu Daniel Linhart, qui a écrit un bouquin super qui s'appelle « La comédie humaine du travail ». Voilà, je vous le conseille, ça vous donne plein de petites pistes pour savoir comment ça a évolué. Mais du coup, moi, j'ai compris qu'il y avait 3 entourloupes quand même assez importantes dans ce domaine-là. Et le premier, déjà, c'est de se dire que par rapport aux contraintes de plus en plus fortes et les objectifs de l'entreprise, les systèmes d'évaluation, en fait, ils sont imposés, mais comme des défis à relever, quoi, pour découvrir des qualités qu'on se découvrirait et pour atteindre un idéal du moi. Et donc, du coup, ça promet un truc de satisfaction narcissique, alors qu'en fait, on parle de risques psychosociaux. Voilà. Donc ça, c'est déjà la première entourloupe, quand même, de ce management. Et puis, la deuxième, c'est aussi que ce sont, du coup, les salariés eux-mêmes qui vont définir, qui sont enclins à définir la manière d'appliquer les objectifs, etc. Et du coup, comme ça se passe dans un travail qui est un peu fluctuant, bah, on parle de... d'innovation, voilà, le mot est sorti, les choses innovantes, voilà, c'est vraiment ce truc-là, et ben, d'appliquer pour les salariés les directives, mais complètement sans regarder leur propre éthique professionnelle, quoi, voilà.
Et puis, il y a une individualisation aussi des salariés qui va empêcher une remise en cause collective.
Exactement.
D'un système qui est mis en place. Mais bon, pour en parler hyper longuement, malheureusement, on n'a pas le temps. Mais est-ce que toi, tu as une pratique, tu fais notamment des formations, des ateliers issus du mouvement de l'éducation populaire?
Oui.
Pas que sur ces questions, mais entre autres, est-ce que tu veux en parler un petit peu
Rapidement, on a créé une association avec une amie qui s'appelle Partouze Azimut. Alors, je détaille, parce que quand on le dit vite, ça fait Partouze Azimut. Et ça, je m'en étais pas rendu compte quand on a posé les noms. Donc, c'est une association
d'orgie
d'éducation populaire. Voilà. Et du coup, on fait des stages en ce moment, plutôt des stages d'anecdotes gesticulées, donc un peu les petits formats conférences gesticulées sur le mépris de classe, du coup avec que des personnes concernées. Et puis aussi, j'anime aussi des ateliers, des stages d'entraînement mental, qui sont des stages, c'est une méthode qui est issue des maquis du Vercors, qui sont, on va dire, à l'initiative de la création de Peuple et Culture, et c'est avant tout de la pensée pour agir, de la pensée pour l'action, et c'est de retrouver un petit peu aussi de quelles habitudes on est faites de penser, pour aller dénicher les préjugés, aller dénicher aussi nos facilités à penser, et puis toujours conserver un esprit critique. Et du coup, on propose des stages d'entraînement mental, voilà.
Donc on peut retrouver quelque part.
Et bah, j'ai un petit lien Facebook. Alors je suis hyper naze en com et en machin. Là, j'ai créé une page cette semaine. C'est pas référencé parce que je sais pas comment faire. Mais du coup,
ça va
si
venir.
Vous allez sur Facebook, vous pouvez taper partout
les formations
Varia
sur la
et
com.
Voilà. Mais je mettrai le lien peut-être sur. Non, mais il y a des formations sur la com. Ouais. Gestion bilboquet et com. Je vais faire ça. Je vais trouver.
Ok. On mettra le lien si on arrive à le trouver. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour ces super créations. Un bon cru pour Bill Bokeh. On a vraiment très peu de temps, mais est-ce qu'il y a une ou deux actus qui vous concernent, que vous avez envie de... Vas-y, Daria. Je sais que tu as des choses.
Oui, il y a... du coup, ce week-end, on est sur la fin du festival. Un autre 8 mars, festival féministe à Guémené-Pinfo. Et du coup, demain soir, à partir de 18h, il y a une soirée qui s'appelle Ballet Boom. Et du coup, il y a le groupe As Queer As Folk qui vient pour l'initiation aux danses trad à 18h. Et ensuite, on a les artistes Mamilena et Mammouth qui viennent pour le bal. Et ensuite, il y aura Boom. Voilà. Et ça continue depuis février, le 20 mars. Et le 14 et 15 février, il y a un stage d'autodéfense féministe Riposte à Nantes. Il reste plein de places. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur ripostewest.fr. Et dernier petit truc quand même, il y a un collectif qui s'appelle Stop Belenos, puisque donc moi j'habite en campagne, et du coup on a toutes les grosses merdouilles d'exploitation du sol qui sont toujours en action, il y a des luttes un peu partout en campagne, et du coup Stop Belenos, donc là où je vis sur pas mal de kilomètres, il y a un projet d'exploration minier et notamment d'or. Qui souhaite s'installer. Voilà. Donc, à vous de voir si l'actu vous intéresse. En tout cas, le 28 février à Redon, à 14h, il y a une grosse manif contre tous les projets d'exploration minier qu'il y a dans la région. Voilà.
Merci pour ces infos très importantes. Merci à vous. En ce qui concerne les détricoteuses, la prochaine émission, c'est le 6 mars dans les studios de Jet. Vous ne nous verrez pas, mais vous pouvez nous écouter sur le mot beige. Inspirant. Et la prochaine aux impertinentes, ce sera le 5 juin pour la fin, la dernière de la saison, sur le mot pédiluve. Ça réserve bien des surprises. Et on continue avec un blind test aux impertinentes. Merci. Et on finit avec un morceau.
Alors, je rappelle que Les Détricoteuses est une émission participative, et que si les gens qui sont ici au bar des impertinentes ou derrière leur poste de radio ont envie un jour de proposer une création sonore, c'est ouvert à toutes et tous, novices de la radio ou aguerris, personnes aguerries, donc welcome. Et on écoute Camion Bip Bip, Camion Bip Bip, c'est parti. Merci les impertinentes, merci.
Salut
tout le monde.
Salut.
J'aime les garçons et les filles. Les gens non binaires aussi. Tout le monde en est ravi. Cause everybody loves me. On me demande de choisir. Est-ce que je suis à moitié queer? Je me sens pas toujours bienvenue. Comme si j'avais pas de commu. Ah, tu crois que j'ai le choix? Je suis pas une autre que toi. Je suis bi, je te chope pas. Je suis bi, je te chope pas. Prends mon tel, appelle-moi 0683. La suite c'est entre toi et moi. Et tu dégages au moindre faux pas.
Que ça me fait mal. Bébé t'es un banger. Je m'en fous de ton gender. Que tu sois un boy ou une girl.
Je suis pas material. I'm bisexual.